Info.
C'est l'heure du débrief éco du dimanche soir. 20 minutes de débat, d'éclairage sur les grands thèmes qui marquent l'actualité économique et sociale. Deux économistes face à face et Emmanuel Cuny, que l'on retrouve en direct à Aix-en-Provence, où viennent de se conclure les 17e rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Catherine, bonsoir à tous.
Alors ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il faut savoir que c'est chaque année, c'est le rendez-vous économique qui referme la saison avant les vacances d'été. C'est l'occasion de faire le point sur les sujets d'actualité, bien sûr, et surtout de mettre en perspective un sujet qui risque de faire l'actualité à la rentrée. On va le voir dans un instant. Auparavant, racontez-nous un peu l'ambiance sur place depuis vendredi. Il y a beaucoup de réflexions, grosse chaleur aussi, j'imagine.
Oui, alors vous imaginez très bien, Catherine, hein, depuis vendredi, le thermomètre est monté de quelques degrés, et pas qu'à l'extérieur d'ailleurs. Je peux vous dire que dans les amphithéâtres de Sciences Po et de la fac de droit avenue Schumann, le mercure n'est pas redescendu tant la réflexion était intense. Alors en gros, depuis vendredi, il y a eu 250 conférenciers, des économistes, des scientifiques, des chercheurs, des politiques, des syndicalistes en provenance du monde entier. Ils sont venus débattre devant quelques 3500 personnes du public, hein, pour plancher sur la prospérité à la recherche de nouvelles prospérités. Alors on dit généralement que les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est un peu comme le sommet de Davos à la française. Alors surtout ne dites pas cela à Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle, parce que ça le fait bondir. Il faut dire quand même qu'il y a une sacrée différence, hein, entre les deux rendez-vous. Davos, c'est un peu l'entre-soi du business en circuit fermé. Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, je peux vous dire vraiment, c'est ouvert à tous les publics. C'est toute la différence entre les deux rendez-vous. C'est très important à signaler.
Alors justement, à vos côtés, en direct des locaux de France Bleu à Aix-en-Provence, Jean-Hervé Lorenzi, qui est président du Cercle des économistes et que je salue. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean Pisani-Ferry, qui est lui aussi membre du Cercle des économistes, ancien conseiller économique spécial d'Emmanuel Macron pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Bonsoir à vous. Jean-Hervé Lorenzi, ma première question, elle est assez simple. À la recherche de nouvelles formes de prospérité, pourquoi avoir retenu ce thème cette année?
Ben, tout simplement parce que le monde est traversé par des tensions, des incompréhensions, le sentiment de tel ou tel groupe social qui se sent déclassé, qui se sent exclu. Enfin, il y a beaucoup de problèmes, au fond, qui dépassent l'aspect purement économique. Et ce mot de prospérité, il est parfaitement décrit par un prix Nobel d'économie qui dit « La prospérité, c'est le cadre qui permet à tous les individus de s'épanouir ». Une sorte de vision très humaniste, très tournée vers l'individu et son propre développement. Et au fond, nous étions, au Cercle des économistes, très convaincus que c'est cette manière-là d'aborder le sujet, d'aller vers ce type de discussion qui permettra peut-être de réfléchir de manière plus apaisée et plus progressiste au monde qu'on est en train de bâtir.
Parce que finalement, derrière prospérité, ça peut paraître un gros mot pour certains. Il y a une notion de richesse, de création de valeur, pour certains même d'exclusion. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal finalement, prospérité, derrière ce mot, on cache certaines choses, Jean Pisani-Ferry?
Les économistes ont l'habitude de parler de croissance. Mais moi, je suis enseignant. Si vous parlez de croissance à n'importe qui de moins de 30 ans, il vous répond « Mais de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est le monde d'hier. » Aujourd'hui, il y a un doute profond sur la croissance, non seulement quantitativement, est-ce qu'elle peut revenir? Bon, elle est en train de revenir, en fait. Mais est-ce qu'elle peut revenir durablement? Mais surtout qualitativement, c'est-à-dire de quoi la croissance est-elle porteuse? Est-ce qu'elle est porteuse de justice sociale? Est-ce qu'elle est porteuse de soutenabilité environnementale? Est-ce qu'elle est soutenable financièrement? Ce sont ces questions qu'on pose, et c'est très intéressant.
Mais pourquoi on se les pose maintenant? Parce que le problème, PIB n'est pas,
récente. Ben, on se les pose maintenant parce qu'on a vu au cours des 10 dernières années, tout de même, une période dans laquelle d'abord il y a eu pas eu de croissance quasiment quantitativement. Le PIB par tête n'a quasiment pas progressé depuis 10 ans. Et en revanche, on a eu la montée des préoccupations sur les inégalités et sur l'environnement. Donc, ce sont des vieilles questions, mais ce sont des questions qui ont pris une actualité, une acuité extrêmement forte.
Alors justement, et c'est très bien que vous attaquiez cet angle-là, Jean Pisani-Ferry, parce qu'il y a une illustration très claire pendant ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est le sondage réalisé par l'Institut ELAB à l'occasion de ces rencontres. Et ce sondage montre que les Français sont un peu fâchés avec la notion de croissance et de PIB. Ils estiment qu'il n'y a pas que ça dans la vie, Jean-Hervé Lorenzi. Donc c'est là les nouvelles sources de prospérité, essayer de trouver une autre voie.
Oui, non, parce que c'est au fond la croissance, ou en tout cas l'évolution des moyens matériel mis à disposition des individus, ça n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour que les gens puissent au fond se satisfaire dans l'existence. S'il est très connu que les Français ont une vision assez positive de leur propre existence et une vision assez négative de leur avenir collectif. Mmh. Et même si la nouvelle équipe en place, en l'occurrence le président Macron, donne un sentiment de renouveau, la France n'a pas changé depuis un mois et le sondage était sur ce plan-là assez curieux. Il montrait que, au fond, les Français se sentaient encore très distanciés par rapport à l'idée que le pays pouvait progresser.
On va voir vos propositions puisqu'il y a une déclaration finale, comme tous les grands rendez-vous économiques, et c'est la tradition au cercle des économistes avec les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Il y a toujours une déclaration finale, on verra les propositions dans la deuxième partie de ce débat. Jean Pisani-Ferry, est-ce que la prospérité est possible finalement sans croissance? Parce qu'on voit le débat croissance, décroissance, comment faire le tri dans tout ça?
Je ne crois pas du tout qu'il faut opposer les deux. Il y a un courant qui dit visons la prospérité et mettons de côté la croissance. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois qu'y compris, par exemple, sur les questions climatiques, on peut avoir non seulement une croissance qui est favorable en termes de réduction des émissions, mais ça peut même être un facteur favorable à la croissance. En revanche, je pense que il faut élargir la mesure. Il faut apprécier sur une gamme plus large.
À trouver d'autres facteurs que ce qui constitue aujourd'hui la constitution, enfin
oui,
la fabrication du PIB.
Et puis il faut être conscient aussi du fait que aujourd'hui, il y a toute une partie de la France qui se pose des questions sur sa participation à la prospérité, qui même est extrêmement pessimiste sur sa participation à la prospérité. Et spontanément, si la croissance revient, il y a une partie de la France qui va se dire « la croissance, ça va être pour les autres, c'est pas pour moi ». Et ça va aiguiser d'une certaine manière, ça risque d'aiguiser, si on n'y prend pas garde, les tensions et les difficultés à l'intérieur du pays.
Très 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 rapidement, Jean-Yves Laurenzi. Sur ce point.
Non, juste, il y a eu quand même un message aussi très fort par beaucoup d'intervenants, c'est la perception que maintenant il y a des phénomènes de pauvreté extrêmement forts en France, ou dans d'autres pays, mais en France, qu'il faut quand même résoudre ce problème-là.
On va poursuivre le débat dans un instant.
Voilà, on va voir maintenant comment les mettre en œuvre, toutes ces pistes de prospérité. Ce sera la deuxième partie de notre débat, juste après le trafic, l'état des routes en cette période de vacances.
France Info Trafic, avec BNP Paribas, la banque qui assure tous vos trajets. En ligne ou en agence, découvrez les points forts de notre assurance auto. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Il y a des ralentissements en région parisienne, Johanna Yakin.
Oui, sur la 86 intérieure, notamment au nord de la capitale, un bouchon de 20 minutes à partir de la Courneuve. C'est notamment à cause d'un incendie dans le secteur de Gennevilliers. Du coup, on a aussi la 15, pas mal ralentie de Franconville en direction de Paris. C'est aussi chargé sur la 6, plus de 40 minutes de Ris-Orangis à la porte d'Orléans. Et puis attention, nationale 118, toujours embouteillée de Bièvre à Meudon, plus d'une demi-heure.
Johanna Yakin pour la route.
Ça va? T'as l'air épuisé.
Ah, je dors plus depuis des mois.
T'as rencontré quelqu'un?
Non, j'ai été cambriolée.
Ah, pardon.
Un cambriolage ne dure pas plus de 8 minutes. Ses conséquences, si. Protégez votre foyer et vos proches avec le système d'alarme Verisure qui détecte les cambriolages avant qu'ils ne se produisent. Appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verisure.fr.
18h50, le rappel de l'info, Léo Técher.
Après la libération de Mossoul, le plus dur commence, estime sur France Info Frédéric Ancel, spécialiste du Moyen-Orient. Il va désormais falloir montrer que la sécurité règne et que les habitants peuvent revenir dans la deuxième ville d'Irak. Plusieurs autres grandes zones restent également aux mains du groupe État islamique dans le pays. 10 000 Français concernés dès l'année prochaine par la réforme du compte pénibilité. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, précise que des examens médicaux vont permettre à ses salariés de partir à la retraite 2 ans plus tôt. La réforme annoncée hier par le Premier ministre Édouard Philippe prévoit de revenir sur 4 critères de pénibilité. Thierry Soler convoqué pour son exclusion du parti Les Républicains. Le député à l'origine de la constitution d'un groupe constructif avec Emmanuel Macron dit ne plus se reconnaître dans ce vieux monde politique qui classe les élus comme des machines à voter. Le Premier ministre Édouard Philippe et Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, sont aussi convoqués. Les Stambouliotes contre la répression de l'État turc. Des dizaines de milliers de manifestants participent ce soir au meeting pour la justice de l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Un meeting comme dernière étape d'une marche de 450 km à travers le pays. Ce n'est pas la dernière marche, promet le leader du parti républicain du peuple qui parle d'une nouvelle naissance. Des orages, de la grêle, mais aussi de fortes pluies de nouveau attendues sur la France. Vigilance orange dans 12 départements de la Charente à la Seine-et-Marne en passant par le centre.
France Info.
Retour à Aix-en-Provence pour la deuxième partie du débrief éco avec Emmanuel Cugny. C'est en direct des studios de France Bleu. À vos côtés, Emmanuel Jean-Hervé Lorenzi, qui est le président du Cercle des économistes, et Jean Pisani Ferry, conseiller économique spécial d'Emmanuel Macron pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Emmanuel, il est question donc des 17e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ce soir, elles viennent de se terminer après 3 jours de débat.
Oui, plus de 250 conférenciers, un public de quelque 3500 personnes pour traiter de la prospérité à la recherche de nouvelles formes de prospérité. C'était le thème cette année. Alors, ces 3 jours de débat ont été conclus cet après-midi, comme chaque année, par une déclaration finale. Et c'est ce document que nous allons évoquer à présent, Catherine.
On parle beaucoup de réformes. C'est un peu le mot à la mode, Jean Pisani-Ferry. Est-ce que ça ne cache pas un discours défensif de la part des politiques et des décideurs en général ?
Le mot est à la mode, mais le mot, si vous voulez, il est à la mode, mais surtout, c'est un mot qui commence à être chargé de significations pas très plaisantes. Hein. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on a dit on fait des réformes, et à chaque fois on en fait. En France, on a fait beaucoup, beaucoup de réformes, avec des résultats qui n'étaient pas toujours au rendez-vous. Je pense qu'il faut, plus se fixer sur ce qu'on veut faire, sur les objectifs, et puis prendre les moyens de transformer, c'est-à-dire d'aboutir à des résultats et de recréer de la stabilité. Ce qui ne va pas, ce sont les réformes qui succèdent aux réformes et dont on ne voit pas les résultats.
L'accumulation de réformes inutiles et inefficaces.
Oui, alors vous savez, pour prendre un exemple, hein, en France, on a changé le code du travail tous les trimestres depuis 15 ans.
Ben on va encore le changer, non ? À ce qui paraît.
Oui, mais on va encore le changer.
Bon, ben
mais,
alors, c'est utile ou pas utile ?
La question, c'est quelle est l'ambition de ce qu'on fait ? C'est-à-dire, est-ce qu'on crée de la stabilité en créant une transformation et en recréant de la stabilité derrière, ou est-ce qu'on retouche
encore ? Donc là, cette fois-ci, on est vraiment ambitieux, c'est ce que je voulais dire.
J'espère.
Bon, on va voir. Alors, donc, Jean-Hervé Lorenzi, la déclaration finale des rencontres économiques cette année, ce sont 12 propositions, c'est beaucoup quand même.
Non.
Il y a des priorités, on ne va pas tout, on peut pas être exhaustif, mais aller sur les priorités.
L'idée de base, c'est d'abord de retrouver cette idée du progrès. En fait, ne pas se tromper sur le fait que, au fond, une société comme la nôtre a l'impression, à la fois pour beaucoup d'entre nous, de vivre agréablement, sans difficulté matérielle majeure, et que pour les générations qui arrivent, il n'y a pas de perspective, d'horizon, de progrès bien défini. Et c'est, au fond, ce point-là qui est développé. Alors, derrière tout ça, il y a 2 ou 3 points. Moi, je voudrais en signaler un parce qu'il est très caractéristique du débat qui va avoir lieu dans notre pays. L'équipe actuelle économique, financière, puisque M. Le Maire était là.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Bruno Le Maire, au fond, donne le sentiment que beaucoup de propositions, à juste titre d'ailleurs, sont étalées dans le temps. Il y en a une qui pose un problème, à mon avis, majeur, c'est l'idée que si on veut faire redémarrer l'investissement dans notre pays, il faut que la fiscalité des revenus du capital, qui avait été un peu abusivement considérée comme devant être exactement la même que la fiscalité des revenus du travail, qu'elle diminue, tout simplement parce qu'elle est très, 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 beaucoup plus lourde qu'elle n'est dans d'autres pays. Et ça, nous l'avons demandé à Monsieur Le Maire, à Bruno Le Maire, et il semble que...
Visiblement, on recule un petit peu en ce moment dans les promesses sur le plan fiscalité, non ?
L'idée, c'est pas tellement qu'on recule, on étale. Mmh. Or, on est dans une période où il y a un redémarrage de la croissance, il faut pas donner le sentiment que, on recule trop pour lancer des initiatives.
Alors, tout ça coûte de l'argent quand même, Jean Pisani-Ferry, comment financer ces 12 propositions qu'on ne peut pas détailler ce soir, et je renvoie d'ailleurs sur le site du Cercle des économistes et des rencontres économiques, où la déclaration et toutes les propositions figurent. Comment on finance tout ça ? Est-ce que le niveau des comptes publics aujourd'hui permettent d'en faire plus ?
Toutes les propositions qui sont faites par le cercle des économistes ne coûtent pas nécessairement. Hein. Mais bon, il y a une question qui est effectivement un besoin de, par exemple, de réinvestissement dans les compétences. On est tous d'accord que notre pays souffre d'un déficit de compétences, pour les gens qui sont loin du marché du travail, hein, les jeunes sans qualification,
donc ça, c'est la formation.
Chômeurs de longue durée, mmh. Et d'un déficit de compétences aussi pour les actifs. Donc il y a un effort pour la formation à faire et ça coûte. Alors ça, c'est de l'investissement au sens large, c'est-à-dire c'est pas de l'investissement dans le sens de la comptabilité nationale, c'est pas de l'investissement au sens de la comptabilité d'entreprise, mais c'est l'investissement au sens où c'est une dépense aujourd'hui qui a des effets pour demain.
La place des collectivités locales dans tout ça, parce qu'il y a des demandes, on le voit sur le terrain.
Il y a des demandes des collectivités locales, mais si vous comparez la France à d'autres pays, on ne souffre pas d'un déficit particulièrement marqué d'investissement des collectivités locales. L'investissement en infrastructure, l'investissement en équipement collectif des collectivités territoriales, il se porte largement mieux de ce qui se passe par exemple en Allemagne. En revanche, sur les questions de l'enseignement, sur les questions de la formation professionnelle, sur des questions de recherche, on a là un vrai déficit. Donc il ne faut pas se tromper sur la nature de l'investissement.
Jean Pisani-Ferry, justement, le président Emmanuel Macron vous a confié l'importante mission de trouver des investissements pour 50 milliards d'euros, d'investir pour 50 milliards d'euros. Où est-ce que vous allez investir ?
Non, ce n'est pas exactement la mission qui m'a été confiée. Il y avait dans le programme, je ne m'exprime pas à ce titre aujourd'hui, hein, moi ouais. je ne m'exprime pas.
Non, mais enfin, on parle d'investissement et vous avez 50 milliards dans
votre
portefeuille.
Non, mais il y avait dans le programme l'idée qu'avec des taux d'intérêt particulièrement bas, on pouvait effectivement financer des investissements au sens que je disais, au sens large, c'est-à-dire des dépenses d'aujourd'hui qui ont des effets d'amélioration nette à l'horizon de la fin du quinquennat. On est dans un contexte de finances publiques qui est un contexte tendu, donc il faut trouver la manière de faire, quels sont les bons instruments, quel est le bon étiage, et c'est ça la mission qui m'a été confiée.
Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, rapide conclusion, c'est un nouveau contrat social finalement que vous proposez?
Non, juste deux exemples pour que les auditeurs comprennent bien que nos propositions sont très concrètes. Quand vous êtes lutte contre la pauvreté, vous avez quelqu'un qui est à Rouen et il a un logement social. On lui dit il y a un job à Rennes. Enfin, à Rennes, il n'y a pas de logement social pour lui. Donc, il ne va pas y aller. Donc, c'est ce qu'on appelle la portabilité de logement social. Deuxième sujet, les jeunes, parce que c'est très important. On a des IUT qui sont formidables, mais les gens considèrent que c'est un premier cycle pour aller après ça dans l'enseignement général. Il faut changer ce genre de choses. Voilà,
merci. Ce genre
de choses, ça ne coûte pas de l'argent. C'est très important pour l'avenir.
Merci infiniment, Jean-Yves Lorenzi.
Merci beaucoup, effectivement. Emmanuel Cugna, bientôt, j'espère. Emmanuel ?
Alors, pas plus tard que dimanche prochain.
Pas plus tard que dimanche prochain.
Pas les vacances pour nous, l'actualité continue à tourner.
Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, et Jean Pisani-Ferry, qui est membre également du Cercle des économistes et ancien conseiller économique spécial d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle.